Vous écoutez France Culture.
Jeux de société de David Lodge dans une adaptation de Juliette Eman. Deuxième épisode.
L'horloge de l'université sonne 11 coups et son carillon se mêle à celui des autres horloges, proches ou lointaines. Partout, à Romitch et dans les environs, les gens sont au travail. Ou bien ils n'y sont pas, selon le cas. Robin Penrose se dirige vers l'amphi A, empruntant des couloirs et des escaliers qui grouillent d'étudiants en train de changer de salle de cours. Il s'écarte pour la laisser passer, telles les vagues devant la proue d'un navire majestueux. Elle sourit à ceux qui la reconnaissent. Certains lui emboîtent le pas et la suivent jusqu'à l'amphi, si bien qu'elle a l'impression de conduire un petit défilé, comme une petite joueuse de flutio. Elle porte sous un bras la chemise contenant ses notes de cours et sous l'autre une pile de livres qui lui serviront à illustrer ses propos. Aucun garçon ne propose de la soulager de ce fardeau. Robin n'accepterait d'ailleurs pas, pour des raisons idéologiques, et les autres étudiants interpréteraient ce geste comme de la lèche. Vic Wilcox est en réunion avec son directeur du marketing, Brian Everthorpe.
Désolé pour le retard, Vic.
Tu devrais vivre en ville comme moi, Brian, pas 50 km.
Ouais. Tu connais Beryl, hein? Elle dit que les gosses ont besoin de l'air de la campagne.
Viens de jeter un coup d'œil à ta feuille de frais, Brian.
Et alors?
C'est très raisonnable.
Merci.
C'était pas vraiment un compliment de ma part.
C'est le plus ancien et le plus suffisant de tous les membres de l'équipe de direction dont Vic a hérité.
Pardon ?
J'aurais cru que le directeur du marketing d'une firme comme la nôtre aurait eu deux fois plus de frais d'hôtel.
Ah bah c'est que... Bah tu comprends, Beryl n'aime pas être seule à la maison la nuit.
Mais elle a les gosses avec elle.
Bah pas pendant le trimestre, mon vieux. On les met en pension, on n'a pas le choix quand on vit comme nous à la Cambrousse. Je préfère rentrer à la maison après les réunions, quelle que soit la distance.
Oui, ton kilométrage n'est pas excessif non plus.
Tu trouves ?
Dans les années 1840 et 1850, parurent en Angleterre tout un tas de romans qui avaient tous un air de parenté. Raymond Williams les a appelés les romans industriels, parce qu'ils traitent de problèmes sociaux et économiques issus de la révolution industrielle, et parce qu'ils décrivent, dans certains cas, le travail en usine. Ce sont des romans où les personnages principaux débattent de sujets sociaux et économiques brûlants. Tombent amoureux et se séparent, se marient et font des enfants, ont une carrière professionnelle, font fortune et se ruinent, et agissent par ailleurs comme tous les personnages des romans les plus conventionnels. Le roman industriel a apporté au roman anglais une veine originale qui survit encore dans la période contemporaine. On la retrouve dans l'œuvre de Lawrence, et de Foster, par exemple. Vers le milieu du XIXe siècle, la révolution industrielle avait fini par briser complètement les structures traditionnelles de la société anglaise, apportant la richesse à quelques-uns et la misère à beaucoup. Les classes laborieuses rencontrèrent beaucoup de résistance lorsqu'elles tentèrent d'obtenir un pouvoir politique à travers le mouvement chartiste. La charte du peuple réclamait le suffrage universel pour les hommes. Ces extrémistes très éclairés n'ont apparemment jamais imaginé qu'ils pouvaient réclamer le suffrage universel aussi pour les femmes.
Bien, messieurs, nous allons pouvoir commencer. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire combien de produits différents notre firme a fabriqués l'an dernier ? C'est-à-dire, selon moi, 900 de trop.
Vous voulez dire différents modèles, non ? Pas différents produits.
D'accord, différents modèles. Mais pour chaque modèle, nous sommes obligés d'arrêter la production, de reconfigurer et de relancer les machines, d'arrêter une chaîne de montage et je ne sais quoi encore. Ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Par ailleurs, les ouvriers ont davantage tendance à faire des erreurs quand les installations changent sans arrêt. Et cela accroît fatalement nos pertes. Je n'ai pas raison.
Monsieur Gradgrind, en temps difficile, incarne l'esprit du capitalisme industriel tel que le voyait Dickens. Sa philosophie est utilitaire. Il méprise l'émotion et l'imagination et ne croit qu'aux faits. Ce roman montre, entre autres choses, l'effet désastreux de cette philosophie sur les propres enfants de Monsieur Gradgrind. Tom se met à voler et Louisa tombe presque dans l'adultère. Et aussi sur la vie des classes laborieuses de Cocktown. Cette ville sinistre, à l'image de cet homme qui possède... qui possède plusieurs rues toutes plus ou moins semblables et beaucoup d'autres rues encore plus semblables les unes que les autres, peuplées de gens tous identiques, qui sortaient et rentraient tous à la même heure, faisaient tous le même bruit sur la chaussée pour se rendre au même travail et pour qui chaque jour ressemblait à celui de la veille et à celui du lendemain et chaque année était comme la précédente et comme la suivante. Il est par ailleurs intéressant de constater que beaucoup de romans industriels furent écrits par des femmes.
Je m'explique. Nous produisons trop de choses différentes, mais en quantité insuffisante, et pour répondre à des commandes trop faibles. Il faut faire un effort de rationalisation, offrir un choix limité de produits standards à des prix compétitifs. Encourager nos clients à développer leur système autour de nos produits.
Et pourquoi se donnera-t-il cette peine ?
Parce que les produits seront bon marché, fiables et disponibles presque instantanément. S'ils veulent qu'on leur fabrique des modèles spéciaux, d'accord, mais il faut exiger une grosse commande ou un prix élevé.
Et s'ils ne veulent pas jouer le jeu ?
Alors ils n'auront qu'à aller voir ailleurs.
Ça ne me plaît pas. Ce sont les petites commandes qui amènent les grosses.
Je crois pas, Brian. Pourquoi les clients se donneraient-ils la peine de commander en grande quantité alors qu'ils peuvent le faire en petite quantité tout en maintenant leur stock à un niveau très bas ?
Il s'agit seulement de satisfaire la clientèle. Pringle a un slogan.
Oui, je le connais, Brian. Si ça peut se fabriquer, Pringle le fabrique. Eh bien, je propose un autre slogan. Si c'est rentable, Pringle le fabrique.
Dans toutes ses œuvres, les contradictions idéologiques qui caractérisent l'attitude libérale et humaniste des classes moyennes envers la révolution industrielle prennent une coloration véritablement sexuelle. Inutile de vous dire que le capitalisme industriel est phallocentrique. Les inventeurs, les ingénieurs, les propriétaires d'usines et les banquiers qui l'alimentaient et le faisaient vivre étaient tous des hommes. L'indice métonymique le plus manifestement lié à l'industrie, à savoir la cheminée d'usine, est aussi, par métaphore, un symbole phallique. Toute cette imagerie qui revient sans cesse dans l'évocation du paysage industriel, tant rural qu'urbain, dans toute la littérature du XIXe siècle, les hautes cheminées qui se dressent dans le ciel et crachent des rubans de fumée noire, les bâtiments qui vibrent au rythme des machines puissantes, le train qui se rue inexorablement à travers la campagne passive, tout cela est imprégné d'une sexualité masculine, à la fois dominatrice et destructrice. Ainsi, pour les romancières, l'industrie exerçait une fascination complexe. À un niveau conscient, c'était l'autre, l'étranger, le monde mâle du travail, dans lequel elle n'avait aucune place. Au niveau inconscient, c'était ce qu'elles désiraient toutes pour remédier à leur propre castration, à leur sentiment aigu d'un manque.
Y a-t-il d'autres questions ?
Oui. Si nous rationalisons la production, comme vous le dites, est-ce que ça impliquera des licenciements ?
Non, la rationalisation entraînera une croissance des ventes. Au bout du compte, nous aurons besoin d'embaucher des hommes et non d'en licencier. Bon, la séance est close, messieurs. Oui.
C'est Roy McIntosh.
Eh, passez-le-moi.
Qu'est-ce qui se passe, Vic? Pourquoi vous renouvelez pas vos commandes? Je suppose que quelqu'un vous a fait des prix plus avantageux, c'est ça?
Non, Roy, nous nous approvisionnons nous-mêmes désormais.
Avec votre vieille fonderie?
On a fait des aménagements.
Il a dû falloir en faire, en effet. Je passerai peut-être 26 jours, hein? J'aurais bien jeté un coup d'œil à votre fonderie.
Quand tu voudras. Dis à ta secrétaire d'arranger ça avec la mienne. Allez, salut Roy.
Salut.
Shirley ?
Oui ?
Roy McIntosh veut passer voir la fonderie. Sa secrétaire vous appellera à repousser le rendez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Je veux pas que le monde entier apprenne l'existence du KW.
D'accord.
On va justement voir Tom Rigby. Je ferai un petit détour par l'atelier des machines.
Très bien.
Les auteurs qui ont écrit les romans industriels n'ont jamais réussi à résoudre, dans leur fiction, les contradictions inhérentes à leur statut dans la société. Incapables d'envisager une solution politique aux problèmes sociaux qu'ils décrivaient dans leurs romans, ces romanciers ne pouvaient proposer que des solutions narratives aux dilemmes personnels de leurs personnages. Et ces solutions narratives sont invariablement négatives ou évasives. Dans Temps difficile, par exemple, l'ouvrier martyr Stephen Blackpool meurt en odeur de sainteté. L'héroïne de Mary Barton, une ouvrière, part pour les colonies avec son mari afin de commencer une vie nouvelle. En bref, le roman victorien ne propose aucune autre solution aux problèmes posés par le capitalisme industriel en dehors de l'héritage, du mariage, de l'émigration ou de la mort. Je vous remercie.
Tandis que Robin Penrose conclut son cours et que Vic Wilcox commence sa visite de l'atelier des machines, Philippe Swallow, le chef de département de Robin, revient d'une réunion éprouvante de la commission du troisième cycle de la faculté des lettres.
Le chef de cabinet du président a téléphoné. Pour savoir si vous pouviez communiquer le nom de votre candidat au système de stage de l'année de l'industrie.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Je n'en sais rien, je n'en ai jamais entendu parler. Vous voulez que je téléphone à Phyllis Cameron pour le lui demander?
Ah non, surtout pas. Seulement en dernier recours. Je ne tiens pas à ce qu'on passe pour des idiots à la faculté des lettres. On a assez de problèmes comme ça.
Je suis sûre, en ce qui me concerne, que je n'ai jamais vu passer de lettres à ce sujet.
Non, non, mais c'est ma faute, j'en suis sûr. Sang, où est-ce que j'ai fourré cette lettre? Ah, ça doit être ça. Mon Dieu, le document est daté du 1er décembre 85. Expéditeur, le président. Destinataire, les doyens des facultés. Objet, système de stage année de l'industrie. Comme vous le savez sans doute, 1986 a été désignée année de l'industrie par le gouvernement. Le MEN, par l'intermédiaire de la CUF, incite la CP à faire en sorte que toutes les universités à travers le Royaume-Uni, il affectionne les acronymes.
Quoi ?
Tous ces sigles.
C'est pour économiser du papier et du temps de frappe. On nous a fait passer une note à ce sujet. Il faut qu'on utilise les acro-machins là le plus souvent possible dans la correspondance interne de l'université.
Alors, que toutes les universités à travers le Royaume-Uni fassent un effort tout particulier pendant l'année qui vient pour se montrer attentives aux besoins de l'industrie, à la fois en collaborant au niveau de la recherche et du développement et en proposant des étudiants diplômés très qualifiés et très motivés pour entrer dans l'industrie. Un comité de travail a été mis en place en juillet dernier pour étudier comment notre université pouvait contribuer à l'AI. Et l'une des recommandations est que chaque faculté nomme un membre du personnel pour être stagiaire auprès d'une personne occupant un poste de PDG dans l'industrie manufacturière locale, laquelle sera choisie par l'AMR au cours du deuxième trimestre. Qu'est-ce que c'est, ça, que l'AMR ?
L'Association des manufactures de Remige ?
Ah oui, peut-être. Pas mal vu, Pam. On pense volontiers un peu partout dans le pays que les universités sont des tours d'ivoire, dont le personnel ignore tout de ce qu'est le commerce dans notre monde moderne. Le SS devra administrer la preuve de notre volonté de nous informer sur les besoins de l'industrie. Le SS, il a ses propres troupes d'assaut maintenant, le président ?
Je crois que ça veut dire le système de stage.
Oui, vous avez sûrement raison. Le stagiaire est la personne qui accompagne une autre personne dans toutes ses activités quotidiennes. Ainsi, le stagiaire verra le travail de l'intérieur et aura une connaissance authentique qu'il n'obtiendrait pas par un simple entretien ou une visite guidée. L'idéal serait que le stagiaire passe une ou deux semaines complètes avec son homologue, mais si cela ne peut se faire, on pourra se contenter d'une journée par semaine pendant tout le trimestre. À la fin de cette expérience, on demandera aux stagiaires de rédiger un court rapport sur ce qu'ils ont appris. Mesures à prendre. Les nominations doivent parvenir au bureau du président avant le mercredi 8 janvier 86. Ah, mon Dieu!
Non, vraiment, désolé. Ce n'est malheureusement pas ma tasse de thé, Philippe. Se balader toute une journée à travers une usine, c'est pas pour moi. Je ne connais rien de plus ennuyeux.
Et toi, Bob ?
Absolument impossible ce trimestre, Philippe. Avec tout le travail que me donne le SES, en plus du reste.
Qui puis-je proposer, alors ? Il faut que j'ai un nom aujourd'hui, avant 4h30. On ne laisse pas le temps de consulter les autres départements.
Pourquoi pas toi ?
Tu plaisantes. Avec tout le travail que j'ai comme doyen.
De toute façon, cette idée est totalement farfelue. Je ne vois pas ce que la faculté des lettres a à faire d'une année de l'industrie. Ni ce qu'une année de l'industrie peut avoir à faire d'une faculté des lettres.
Pourquoi tu ne poses pas la question au président, Robert ? Cal a fait l'affaire de l'AI et l'AI de l'AFL.
Je ne comprends rien à ce que tu dis.
Je plaisantais. On n'a pas si souvent l'occasion de plaisanter quand on est doyen de notre cher Eiffel. des responsabilités, mais pas de pouvoir. Tu vois, normalement, je devrais avoir assez de pouvoir pour ordonner à l'un ou l'autre d'entre vous de faire cette connerie de stage.
Tu ne peux pas. Il faut d'abord que tu lances un appel à candidature et organises une réunion du département pour en discuter.
Je sais, mais je n'ai pas le temps.
Pourquoi tu ne demandes pas à Robin Penrose ?
La personne qui a le moins d'ancienneté dans le département.
Mais ça lui irait à merveille.
Tu crois ?
Bien sûr. Avec le livre qu'elle a écrit sur le roman industriel pendant la période victorienne.
Ah oui, je vois. C'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est une idée quand même.
Wilcox.
T'es au courant de l'année de l'industrie, Vic ?
Oui, juste assez pour savoir que c'est une perte de temps et d'argent.
J'aurais plutôt tendance à être de ton avis, mais le conseil d'administration estime que nous devons y prendre part. C'est bon pour les public relations du groupe, tu comprends ? Le président est fanat du projet. On m'a demandé de coordonner toutes les initiatives.
Qu'est-ce que t'attends de moi ?
J'y viens, Vic. Tu sais ce que c'est qu'un stagiaire ? Le stagiaire est la personne qui accompagne une autre personne dans toutes ses activités quotidiennes.
Pas question.
Pourquoi pas, Vic ?
Je tiens pas à voir un crétin d'universitaire me coller au basque à longueur de journée.
Seulement un jour par semaine, Vic. Et pour quelques semaines seulement.
Pourquoi moi ?
Parce que tu es le DG le plus dynamique du secteur. On veut leur montrer ce qu'on a de mieux.
J'y réfléchirai.
Je regrette, Vic, mais il faut que je décide tout de suite. Je vois le président ce soir à une réception.
Tu t'y prends un peu tard, non ?
Pour tout te dire, ma secrétaire s'est foutue dedans. Elle a perdu la lettre.
Ah oui ?
J'apprécierais beaucoup si tu voulais coopérer.
En somme, c'est un ordre ?
Tu n'es pas drôle, Vic. On n'est pas à l'armée.
Et cette soufflerie de noyaux automatiques ?
Envoie-moi un téléx. Et je le fais passer tout de suite.
Merci.
Et pour notre affaire ?
D'accord.
Parfait. Le nom de ton stagiaire est Dr. Robin Penrose.
Un toubib ?
Non.
Pas un psy, j'espère ?
Non. Je crois savoir qu'il s'agit d'un maître de conférence en littérature anglaise.
Maître de conférence en quoi ?
Je ne sais pas grand-chose d'autre sur lui. Je n'ai reçu le message que cet après-midi.
Et Jésus pleure.
T'as lu de bons livres ces temps-ci, Vic ?
C'était « Jeux de société » de David Lodge. Dans une adaptation de Juliette Eman. Deuxième épisode. Traduction Yvonne et Maurice Couturier. Avec Féodor Atkin, le narrateur. Sophie Guédon, Robin Penrose. Philippe Bottier, Vic Wilcox. Christiane Billet, Shirley. Julien Cibre, Brian Everthorpe. François Hatt, Bert Braddock. Laurent Dols, Roy McIntosh. Jean-Christophe Lebert, Stuart Baxter. Gabriel Ledoz, Philippe Soileau, Sophie Dole, Pamela, Sylvain Clément, Bob Busby, Yves-Fabrice Lebeau, Rupert Sutcliffe, Michel Dehay, un responsable technique, et les voix de Marlène Goulard, Hélène Bressian, Clémence Boxis, Akima Afroun, Vincent Bramoulet, Alexandre Devos, Paul Granier, Bachir Tlili et Paul-Antoine Veillon. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son et mixage, Claire Levasseur. Assistance technique et montage, Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Jeux de société de David Lodge est publié aux éditions Rivage.